Curiosité, la quotidienne actu locale de Prune, du lundi au vendredi, de 17h30 à 18h30.
Bonsoir à tous, nous sommes lundi 18 décembre 2023 et oui, il reste plus que 7 jours avant Noël, il est 17h30 et vous êtes sur Prune 92 FM. Bienvenue dans Curiosité, votre émission quotidienne d'actualité locale. Je m'appelle Martin, c'est un vrai plaisir d'animer l'émission aujourd'hui, comme chaque lundi, avec mon équipe pour une heure de programme sur l'actualité de Nantes, mais pas que. Ce soir, du coup, dans le programme, nous allons évoquer plusieurs choses. Nous allons écouter dans un premier temps un reportage sur les attaques en Palestine. Nous allons continuer avec la pause cadeau d'Esteban que nous retrouvons tous les lundis pour vous gâter. C'est notre papa de Noël. Nous allons continuer ensuite avec Maud, du coup, qui a la chance d'interviewer notre clown du jour, Claudia Nautal. Alors oui, effectivement, nous avons déjà eu un clown la semaine dernière et cette semaine également, on vous apporte du coup de la joie parce qu'il n'y a pas que le chocolat qui apporte le bonheur mais également le fou rire. Et nous allons continuer avec Victor qui nous fera sa chronique du jour sur les décors du voyage en hiver à Nantes, que vous avez aimé eux ou pas. En tout cas, il vous donnera du coup sa version, c'est tout de suite dans Curiosité.
Curiosité, le Zoom Actu.
Alors, dans un premier temps, comme je vous ai dit, nous allons écouter un reportage de 10 minutes sur les attaques en Palestine. Alors, depuis le 8 octobre et les attaques de l'armée israélienne sur la bande de Gaza, des citoyens et citoyennes se mobilisent partout dans le monde pour faire cesser ce que la Fédération internationale des droits de l'homme appelle un génocide. Ici, à Nantes, un collectif porté par Urgence Palestine, organise des actions, des manifestations et des soirées-événements pour parler de la libération de la Palestine, demander la fin du massacre et montrer aux Nantais et aux Nantaises que la cause palestinienne nous concerne tous et toutes, en effet. Dans ce reportage, nous entendrons des personnes concernées témoigner. Ce sont des témoignages qui ont du mal à dépasser les réseaux sociaux militants et qui, pour autant, méritent d'être diffusés largement. Il va de soi que nous condamnons du coup les attaques du 8 octobre sur les civils israéliens et israéliennes et que nous nous positionnons contre toute forme d'antisémitisme. Bonne écoute, c'est tout de suite dans Curiosité.
Free, 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 free.
Le 25 novembre dernier, le collectif Urgence Palestine organisait une soirée témoignage au CMEA dans le sud de Nantes. Un médecin pédiatre, franco-palestinien à la retraite, venait témoigner de la situation à Gaza depuis le 8 octobre. Après 10 ans d'absence, il y était retourné fin septembre voir sa famille à l'occasion du mariage d'un de ses cousins et a été rapatrié vers la France il y a un mois. Il nous a raconté les bombardements du 8 octobre, la fuite vers le sud, la situation à la frontière égyptienne, les conditions de vie sous les attaques de l'armée israélienne et a répondu aux questions du public. Toutes les personnes intéressées et ou concernées par la question palestinienne étaient conviées ce soir-là. Les organisatrices ont décompté plus de 150 personnes présentes. Je vous partage aujourd'hui des extraits de son témoignage.
Alors le 8 octobre, dans l'après-midi, avec ma famille dans le jardin, il y a un voisin qui frappe à la porte, affolé, nous a dit « J'ai reçu un coup de fil, il faut quitter votre maison et vite ». Les jeunes de Gaza ont l'habitude, quand on reçoit un coup de fil comme ça, c'est-à-dire les Israéliens, ils vont bombarder. Ils ne disent pas un mot de plus. Après, il y a d'autres voisins qui arrivent. Entrez, entrez, tout le monde rentre, on attend que les Israéliens vont bombarder. Mais on ne sait pas quoi, qu'est-ce qu'ils vont bombarder, on attend. Et la première frappe qui arrive, le voisin juste à côté, par l'avion israélien, il a frappé. Dans ce cas-là, tout le monde commence à courir très vite, très loin.
Et le matin, on a appris que notre maison, la maison familiale, est complètement rasée. Et il y a des voisins qui n'ont pas sorti, malheureusement, leur maison, elle a tombé sur la tête. Le 13 octobre matin, il y a un rumeur à Gaza qui dit les Israéliens, ils ont demandé les habitants de Gaza, les Gaza City et le trophile de Nord, tout le monde doit partir au sud. Je dis, non, c'est pas vrai. Israël n'osera jamais faire ça. Je dis que je vais voir quand même. J'appelle le consulat de France à Jérusalem. Le consulat, je dis, est-ce que c'est vrai? Il m'a dit, oui, malheureusement, c'est vrai. Il faut partir vite. Au sud, les Israéliens, ils sont prévenus, tous les ONG, l'Organisation européenne occidentale Gaza, les consulats, l'ambassade, tout le monde était au courant dans le projet israélien pour évacuer Gaza de nord vers le sud, c'est-à-dire de déplacer 1,8 million de personnes de nord au sud. Ils n'ont rien dit, ils n'ont rien fait.
La rumeur du déplacement forcé des Gazaouis confirmée, le médecin prend la décision de partir pour tenter de rejoindre la frontière avec l'Égypte et ainsi rentrer en France, près de sa femme et ses enfants. Sa famille à Gaza City, elle, refuse de partir. Il arrive alors à Rafah, dans le sud de Gaza. La frontière reste fermée, alors on lui conseille de rejoindre Khan Younis, un peu plus au nord. Une connaissance de sa famille vient le chercher au poste frontière.
Vraiment, il a venu, il m'a cherché, il a pris chez lui à la maison. Où il y a 5 familles de réfugiés. Et soit ils venaient de Gaza City ou du nord, ou bien qui viennent de la périphérique de la ville. Parce que les Israéliens, quand ils commencent à frapper, ils frappent souvent la périphérique avant qu'ils rentrent. Alors, nous étions 30 personnes, et des enfants pas âgés, des femmes, des vieux, des jeunes. Dans une maison, elle est construite pour 4 personnes. Alors, depuis le premier jour, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Alors, les conditions de vie, c'était vraiment très, très, très difficile. Déjà, pour trouver à manger, les gens qui sont partis ou qui étaient leur maison, il ne faut pas imaginer qu'ils ont pris de l'argent avec eux, ils ont laissé tout. Le bain, c'est des produits de luxe. Chaque déplacement à Gaza, c'est des risques. On a de la chance. Au moins, on a déjà un toit. On trouve difficilement des choses à manger, mais on mange. Mais le problème, ce n'est pas le cas. Malheureusement, pour la majorité des gens qui sont réfugiés dans les écoles, dans les centres de réfugiés de l'ONU, ils n'ont rien. Ils sont vraiment démêlés. Quand je dis démêlés dans une école, imaginez-vous, dans l'école, il y a 2 toilettes.
En tant que médecin et président de PALMED, une association de coopération médicale entre la France et la Palestine, le pédiatre a pu rencontrer le personnel médical des hôpitaux de Gaza.
Inimaginable les conditions que travaillent les médecins à Gaza. Les hôpitaux sont débordés par des blessés parce que tout le jour, il y a des bombardements. J'ai eu l'occasion d'aller à l'hôpital de Rafah, de voir les choses. J'ai vu des choses horribles. On ne peut pas imaginer que les choses se peuvent arriver un jour. Par exemple, de faire intervention chirurgicale sans anesthésie sur un enfant. Et les Israéliens continuent à bombarder les hôpitaux. Ils ont bombardé les mosquées, ils ont bombardé l'église à Gaza, ils ont bombardé les écoles.
Pour conclure son intervention, le médecin nous annonce « Je vais maintenant vous raconter une histoire ». Il nous parle de ce Gazaoui, un vieillard malade qui vit à Gaza City. Quand l'armée israélienne demande aux habitants et habitantes de fuir vers le sud, il refuse. Ce n'est que le 8 novembre, alors que les bombardements touchent la maison de son voisin, qu'il accepte de partir. Il prend la route avec sa femme et son fils. Un homme les conduit en voiture. La route est contrôlée par l'armée israélienne et à quelques centaines de mètres du sud de la vallée de Gaza, la limite imposée par les Israéliens, ceux-ci annoncent aux déplacés qu'ils doivent continuer à pied.
Imaginez-vous avec un homme âgé, malade, pour faire 5 km à pied. Les Israéliens, ils fixent 2 heures aujourd'hui de passer. Après, c'est terminé. Et quand ce monsieur il a passé avec ses enfants, ils ont dit « Dépêchez-vous, il ne vous reste pas beaucoup de temps. » Ils ont commencé à marcher doucement avec son canne et brutalement, les Israéliens commencent à tirer. Sa femme, son fils, ils sont courus vite, ils ont passé la limite, ils ont les vallées de Gaza, et ils n'ont rien vu derrière, parce qu'ils sont déjà éloignés, lui quand il marche doucement. Le lendemain, son fils, il retourne pour avoir cherché les nouvelles de son père. Il est entré, il a trouvé le cadavre de son père. 2 jours après, sa petite fille, elle regarde à l'internet, elle a trouvé l'image de son grand-père avec un soldat israélien qui lui tient la main. Ils nous ont marqué quoi sur le site de l'armée israélienne? Un soldat israélien aide un vieillard palestinien de traverser la route. Ils ont pris la photo, ils ont assassiné après. Et ce monsieur, c'est mon cousin, il s'appelle Bachir.
Yeah.
L'écoute de ce témoignage est difficile, surtout lorsqu'on sait que la situation empire de jour en jour. À l'heure où vous écoutez ce reportage, 1,7 million de Gazaouis ont été déplacés, 17 000 personnes sont mortes et l'armée israélienne bombarde maintenant le sud. En Cisjordanie, des personnes sont arrêtées et assassinées chaque jour par les colons. Les Palestiniens et Palestiniennes sont victimes d'un nettoyage ethnique, d'un génocide qui s'est intensifié depuis 2 mois mais qui dure depuis 75 ans. Je voulais néanmoins terminer en vous partageant la beauté de Gaza et de ses habitants et habitantes, leur détermination dans leur lutte pour la liberté et la solidarité dont ils et elles font preuve. Cette soirée, je vous le disais, a réuni plus de 150 personnes. Dans la salle, des personnes palestiniennes, arabes, musulmanes, des alliés, des enfants, des manifestantes contre les violences sexistes et sexuelles avec des paillettes violettes sur les joues. Une fois l'intervention du docteur terminée, nous avons tous et toutes partagé un repas palestinien cuisiné par des palestiniennes. J'ai vu des jeunes filles portant le hijab se passionner pour la cause, des hommes discuter en arabe de leur quotidien, un enfant avec un long kéfier et de la soupe de lentilles tout autour de la bouche, un autre courant en faisant flotter derrière lui un drapeau palestinien qui devait faire 3 fois sa taille. J'ai vu le sourire des organisatrices, leur soulagement de voir la salle si comble, de ne pas se savoir seule face à la machine coloniale israélienne. Cette résilience fait écho à ce que le pédiatre nous disait plus tôt. Avant d'y retourner, il avait peur de l'état dans lequel il allait retrouver sa ville.
J'étais vraiment agréablement surprise parce que Gaza, que j'ai laissé il y a 10 ans, qui est la pays de guerre, 2014-2021. Les routes sont bien, les arbres, les fleurs, les places publiques, alors les restaurants, les cafés à la plage, les gens à la plage, et mes nuits, au-delà de mes nuits, ils dansent, ils chantent, la musique. Moi, j'arrive pas à croire que c'est Gaza. Jusqu'à quel point, pour montrer qu'il y a vraiment la volonté des gens palestiniens là-bas de se mettre debout. Chaque fois qu'elle reçoit une agression, la guerre, elle se met debout, elle commence à construire, vivre.
Pour soutenir la lutte palestinienne, vous pouvez aller en manifestation, boycotter des enseignes qui soutiennent et financent la colonisation. Vous trouverez la liste sur le site du BDS. Vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux des journalistes gazaouis qui sont sur place, comme Bissan Wizard, In Koudari et Motaz Azaïza. Pour des informations sur les mobilisations locales, vous pouvez suivre Jeunes for Palestine ou Urgence Palestine Nantes. Pour vous investir dans la lutte, rejoignez les collectifs Action Palestine via le lien Telegram présent sur l'Instagram de Rima Hassan. Je laisse maintenant le mot de la fin à Salwa qui nous parle si bien de Gaza ou Gaza, comme on dit en français.
Je crois que c'était fin juin que j'ai rencontré Sari, c'est le fils du pédiatre. En fait, ça fait 10 ans, moi aussi, j'ai été à Gaza pour voir ma famille. Et là, eux, ils vont y aller. Et c'est quoi l'image qu'ils vont me ramener de là-bas? Donc, j'avais hâte. Sari, elle est rentrée tout seule. Donc, je lui ai dit, alors, Razé, le premier mot, elle m'a dit « Bejanin ». « Bejanin », c'est une expression palestinienne pour dire « elle est trop belle, elle est tellement belle ». Mais si on le traduit littéralement, ça veut dire « ils rendent fou ». Et moi, je m'identifie tellement à cette traduction. Oui, Razé, il rend fou. Il rend fou les gens qui l'aiment et aussi il rend fou ses ennemis. Et deuxième truc, il m'a dit, Sari, le mot que les Gazaouis disent tout le temps, mais je crois que tous les Palestiniens le disent tout le temps, c'est teglagesh, c'est-à-dire t'inquiète pas. Malgré que tout ce qui soit autour de nous, il est inquiétant, mais tout le temps, on dit ne t'inquiète pas. Là, c'est l'image que je transmets de Gaza, qui résiste, qui nous invite tous à ne pas être inquiets pour eux, parce qu'eux-mêmes, ils sont pas inquiets parce qu'ils ont choisi cette route-là. Ils ont choisi cette voie-là, la voie de la liberté. Notre combat, elle est pour la liberté. Et à quoi sert une vie avec les oppresseurs? À quoi sert une vie sous oppression?
Vous venez d'écouter le reportage du coup touchant sur la guerre en Palestine. Sachez que vous avez toutes les informations sur Internet. N'hésitez surtout pas à regarder, notamment localement, auprès de l'association France-Palestine Solidarité, donc AFPS44, que vous retrouvez sur Facebook, mais également sur leur site Internet, afps44.france-palestine.org. Tout de suite, nous allons continuer du coup à quelques jours de Noël avec la pause cadeau par Esteban qui vous délivrera du coup tout à l'heure du coup des un cadeau avec sur la pause cadeau je le dis spontanément. Nous allons du coup continuer à l'instant du coup avec une musique juste avant. Il s'agit de Mock Media de Modern Vision. C'est tout de suite. Make it. Comme je vous l'ai dit, vous venez d'écouter Mock Media de Modern Vision. Tout de suite, nous laissons l'antenne à Esteban pour la pause cadeau à 7 jours seulement de Noël. La pause cadeau.
Ce soir, Prune te fait gagner le nouvel EP d'Eda Belle Abyss intitulé Malsainte. Eda Belle Abyss, ce sont des chansons jouées sur un synthé, cantate du quotidien, fardé de beats électroniques. Des compositions en français surtout, mais aussi des relectures de divas arabes chantées dans la langue de Marguerite Duras. Et après des années de projets en groupe, c'est le début pour elle d'un truc qui vrille en solitaire, l'entame pudique du déballage public de ses abysses. Alors, pour tenter de gagner son EP Malsainte, envoie-nous un emoji lune sur l'Instagram de Prune et de suite on écoute son titre L'étreint, présent sur son nouvel EP. Bonne écoute!
Parfois je pédale dans le vide. Ainsi je rate transports urbains et amoureux. Ainsi comme toujours me revient. Me revient ce petit goût de rien ou de trompeur. Ce petit goût certain qui vous monte les larmes aux yeux. Grande vitesse où je ne sente rien de tout ce temps qui me presse. Comme un citron agrume et fruit de mes passions en salade. Mais ces sens sont indigestes de toute façon. Ouais. Du monde, si je dérape,
Venez d'écouter Eda Bel Abyss, les trains, vous êtes dans Curiosité sur Prune, il est 17h54 pile poil et nous continuons tout de suite sur le portrait de vie. Alors pour le portrait de vie, nous avons eu la chance et nous avons passé un très bon moment la semaine dernière avec Sarah Gautré de alias Tina la Trompette. Cette fois-ci, nous avons la chance de recevoir Claudia Nothal, bonsoir.
Bonsoir.
Et Claudia Nothal sera interviewée par Maude. Salut Maude.
Salut Martin.
Elles vont vous présenter une belle sortie du coup d'humour pour OTNT du 21 au 24 décembre, tous les soirs à partir de 20h30. C'est tout de suite dans le portrait de vie.
Ho ho ho.
Curiosité, le Zoom Actu.
Auditeurs, auditrices, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour le dernier portrait de vie de l'année 2023. On finit l'année dans le rire et l'émotion grâce à la présence ce soir de l'artiste Claudia Nothal. Claudia, tu es une artiste aux multiples casquettes. Actrice au cinéma, comédienne et metteuse en scène au théâtre, réalisatrice d'un documentaire, créatrice de solos de clowns, accompagnatrice de compagnie dans leur création, formatrice pour la pédagogie perceptive ou encore animatrice de stages adultes au clown sensoriel et à la danse sensorielle. J'espère n'avoir rien oublié et que mon résumé est exhaustif. Du 21 au 24 décembre, les spectateurs pourront découvrir ou redécouvrir tes deux solos de clown au TNT à Nantes. J'ai mis une jupe le 21 décembre et Dr Kiss en mission du 22 au 24 décembre. Ces pièces durent chacune une heure et sont pour tout public à partir de 7 ans. Une belle idée de sortie avant les fêtes. Alors, pour commencer, je me suis posé une question que je pensais être simple en préparant cette interview. Finalement, qu'est-ce qu'un clown ? Et finalement, la réponse n'est pas si évidente. Emprunté de l'anglais clown, homme rustre, paysan, doux, bouffon, fou, il s'agit historiquement d'un artiste de cirque qui divertit le public par ses acrobaties, ses grosses farces et son accoutrement grotesque ou étrange. Personnage connu par tous, il peut déranger certains, voire ne pas être apprécié quand d'autres l'adorent, enfant comme adulte. Au fil des siècles, ce personnage a su évoluer et devenir populaire. Pour autant, il semble donc difficile de répondre à la question de façon universelle. Alors toi, pour toi Claudia, qu'est-ce qu'un clown contemporain ? Autrement dit, c'est quoi être un clown au XXIe siècle, selon toi ?
Waouh, ça commence très fort. C'est un genre qui évolue énormément depuis une trentaine d'années. Hein, peut-être que les personnes de ma génération, ils ont des souvenirs de clowns de cirque. Vraiment, l'Auguste et puis le clown blanc. Et puis, peut-être en passant par le théâtre, le clown a été vraiment renouvelé. Et après, il est revenu renouvelé aussi au cirque. Donc maintenant, on peut dire que ça s'est vraiment, c'est un panel qui s'est vraiment ouvert. Néanmoins, il y a quand même des choses qu'on retrouve dans toutes les techniques. Ce qu'on pourrait dire, c'est que le clown, c'est la part de notre humanité dans toutes ces belles choses, ces grandes choses, mais aussi toute sa vulnérabilité, la faille, l'échec. Pour moi, c'est une manière d'aimer totalement l'être humain, avec tout ce qu'il est, sans jugement, sans censure. Voilà, c'est une espèce de miroir de notre humanité. Et quand on voit un clown avec justement toutes ses failles, toutes ses faiblesses, toutes ses émotions, ses folies, ses grandeurs, Et bien du coup, ça nous fait un miroir pour nous, chaque être humain. Voilà, c'est comme une boule à facettes d'émotions, de facettes de personnalité. Voilà.
Et ça nous questionne, ça nous fait du bien en même temps.
Tout. Moi, ce que je cherche, c'est évidemment il y a la dimension du rire qui est spéciale, mais je fais pas du clown de gag. Et donc, ce que je cherche surtout, c'est à toucher. Le rire en fait partie. C'est vraiment un état de vivant exacerbé, presque un état d'éveil, de présence et de conscience. En tout cas, c'est vraiment ça qui me passionne et j'ai une vraie recherche autour de ça, en passant vraiment par le corps.
Voilà. Eh ben, on en reparlera tout à l'heure. Mm-hmm. En parlant du corps, il y a un accessoire emblématique du clown qui est le nez rouge,
oui.
Qui est finalement le plus petit masque du monde et pourtant il permet d'oser. Oser faire rire, oser montrer ses émotions, oser partager ses doutes, la liste pourrait être longue, tout en étant finalement protégé, entre guillemets, en mettant une distance entre son vrai soi et le public. Pour avoir déjà testé l'exercice, donc je fais des cours d'improvisation et on a testé cet exercice de mettre un nez rouge et de monter sur scène. Et je confirme qu'effectivement, porter le nez rouge pousse à plus oser, à plus lâcher prise et à jouer davantage avec son corps. Mais le porter finalement en société, dans la vie quotidienne, c'est pas vraiment commun. Alors d'après toi, comment pourrait-on essayer dans notre vie de plus oser sans pour autant porter ce fameux nez rouge ?
Je pense que le passage par le nez rouge est une belle voie de passage justement. Pour les personnes qui travaillent avec moi, c'est vrai qu'après avoir fait un stage, ils voient des applications même dans leur imaginaire. Après, dans leur vie quotidienne, simplement d'imaginer l'autre avec le nez rouge, ça facilite les relations. Ou bien de s'imaginer soi avec un nez rouge, voilà, ça ouvre plein de portes, en fait, de possibles.
Donc finalement, ton conseil, ce serait d'essayer l'exercice et après de faire semblant comme s'il n'existait plus.
C'est ça, parce que c'est difficile d'imaginer sans avoir vraiment eu la pratique physique, psychique, émotionnelle.
Très bien, donc un conseil à nos auditeurs et auditrices d'essayer le nez rouge. Claudia, tu animes également des stages adultes de clowns sensoriels et de danse sensorielle. Mmh. Et sur ton site internet, on peut retrouver des témoignages de stagiaires qui sont très touchants. Donc j'en ai récupéré, sélectionné deux extraits. Donc le premier est le suivant. Le clown sensoriel me permet de découvrir un peu plus qui je suis au fond, tout en l'acceptant et en jouant avec. Moi qui avais l'habitude de garder certaines émotions enfouies et d'user d'une bonne pratique de l'auto-jugement, ça fait sauter ces vieux fonctionnements avec humour et amour. Et le deuxième, je suis très fière de moi et ça me touche de le dire. Parce qu'en fait, la grande révélation de ces 2 ans de formation, c'est que j'apprends à m'aimer, enfin. Alors forcément, ils sont poignants avec des mots qui en ressortent, qui sont assez forts. Peux-tu nous expliquer en quelques mots ce que tu cherches à transmettre dans tes formations ? Et comment finalement tu vas apprendre à des adultes qui ont déjà ces vieux fonctionnements, pour reprendre les mots du témoignage, à oser et également à lâcher prise ?
Déjà, on passe par des exercices qui font qu'on n'est plus dans le quotidien. On n'est plus dans ses habitudes comportementales, les habitudes physiques automatiques. Donc on va passer par des moments de méditation, c'est très très physique. Et puis des moments, par exemple, de faire du mouvement lent avec des points d'appui. Parce que dès lors, quand je ne vais plus dans ma vitesse du quotidien et que je ralentis mon geste, à ce moment-là, ça développe les perceptions. Et du coup, on va rentrer dans un autre mode de perception de soi-même. Voilà. On quitte les habitudes pour faire une nouvelle expérience de soi-même. Ça, c'est vraiment une base physique qui va toucher sur le psychisme, en fait. Et puis... ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer, par exemple, dans des exercices de contact où on ne va plus être avec le corps habituel aussi, mais on va vraiment rentrer dans du moelleux, du spongieux de la matière, toujours pour se ressentir plus. Il y a un immense respect de soi, des autres. Et puis après, on va mettre dans des situations, des jeux de rôle, des choses comme ça. Et puis, on va apprendre à partager, à exprimer et à se décoller un peu, à pas être que celui qui vit l'expérience, mais aussi celui qui se voit en train de vivre l'expérience, qui expérimente un peu comme si on était spectateur et acteur de soi-même.
Et est-ce que justement pour faire ça, est-ce que tu as peut-être un exercice que tu fais faire systématiquement aux personnes qui suivent tes stages ?
Oui, c'est ça, c'est vraiment ces mouvements lents pour commencer, de la méditation, juste se poser, se ressentir, écouter, voir intérieurement, sentir son corps, ses appuis, c'est très simple en fait. Et puis après, faire des mouvements lents D'abord, qui font du bien physiquement, et puis qui permettent de ralentir et justement être dans un état de conscience, de présence, plus.
Très bien. Et est-ce que tu peux nous partager peut-être une anecdote, drôle ou marquante que tu as vécue lors d'un stage adulte, ou quelque chose voilà, qui t'a peut-être marqué?
Comme ça, là, ouf, il y a tellement d'expériences, tellement de choses...
Peut-être un beau moment de quelqu'un qui réalise voilà, que l'exercice lui a fait du bien, lui a permis peut-être
Ce qui est touchant, c'est ce genre de témoignage-là. Voilà, c'est quand quelqu'un se rencontre elle-même, quoi, c'est ça. Et puis, et face à ces... si vous voulez, le regard, la vue, c'est beaucoup attribué à du jugement. Et quand on est éduqué d'une manière avec beaucoup de jugement, et après, les personnes, elles s'auto-jugent elles-mêmes. Et quand elles sont face à un public, elles continuent ce fonctionnement. Et quand on retire ce verrou et qu'on est regardé avec pleine bienveillance, même ça, ça ne suffit pas. Il faut que la personne se regarde elle-même avec cet amour. Et c'est ça qui change tout. Et c'est ça qui est vraiment magnifique. Et c'est ça qui fait ce genre de témoignage. Et après, quand on rentre dans cet état... Bien, l'humour peut arriver, parce qu'on a un rapport à sa propre vie, à ce qu'on vit, qui est né... Ah, bah, si j'ai une anecdote qui me vient.
Ah bah.
C'est quelqu'un qui boitait, et qui faisait déjà beaucoup de clown, et moi j'ai fait du clown avec elle pour la première fois, elle boitait vraiment, un petit boitement. Et donc, sur scène, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour essayer de ne pas boiter, et de montrer qu'elle ne boitait pas. Et moi je lui dis, mais c'est génial ton boitement là, il est magnifique, mais montre-moi tout ce que tu peux faire avec ce boitement, et aime-le, et joue avec, et tout. Et tout le monde a été bouleversé, parce que c'est son clown, c'est elle, c'était magnifique, tout le monde aurait voulu boiter quand même, tellement on l'aimait, quoi, tu vois. Bon là c'est un petit peu extrême, tu vois, avec un petit handicap, mais finalement... Est-ce qu'on n'est pas tous un petit peu handicapés, tu vois, soit d'une émotion, soit de plusieurs, soit d'un manque d'amour pour soi ou pour les autres? Finalement, hein, toute la vie, c'est une histoire d'amour.
Bien sûr. Et bien après, c'est ce qui peut être beau aussi, justement, comme tu dis, de faire peut-être d'un handicap ou de quelque chose qui nous questionne, d'en faire une force aussi, et de peut-être apprendre aussi à jouer avec.
C'est exactement ça. Exactement. Ouais.
Très bien. Bah, merci beaucoup, Claudia. Je redonne le micro à Martin et on va se retrouver juste après la pause musicale pour la suite de cette interview.
Merci.
Merci Maud, merci Claudia. Effectivement, nous vous faisons une petite pause musicale. Nous allons faire un doux mélange de blues, d'afro, funk et de jazz avec le titre Anae Shir Adash, qui est sorti en 2023 de l'album Shabazi. Alors, j'espère bien prononcer. Le groupe, du coup, c'est Yemen Blues, un groupe fondé en 2010 par le chanteur-compositeur, justement, comme nous en parlions tout à l'heure, israélien d'origine yéménite, Ravid Rahahani. C'est tout de suite dans Curiosité.
صعب بالإخفاق أتجرى لي وانت رالي عندك قلبي سالي لا مهيمن سري في بياني جال منه منطف كل شاكي ومخلص نفسي عن هلاكي ومخلص نفسي عن هلاكي مين هوض عن ظهري صرت باكي
Auditeurs, auditrices, nous sommes de retour sur Prune 92 FM. Nous sommes en présence de l'artiste Claudia Nautal, notre clown de ce soir. Et donc, pour continuer l'interview, Claudia, dans tes deux solos, J'ai mis une jupe et Dr Kiss en mission, tu abordes respectivement deux thèmes phares actuels de notre société, les femmes et la planète. Quel regard portes-tu sur ces deux sujets et à quel moment as-tu fait le choix de les intégrer pleinement au cœur de tes solos?
Alors, J'ai mis une jupe, c'est vraiment le premier solo que j'ai commencé. Je sortais de cette formation de pédagogie perceptive créée par Dany Bois et je voulais intégrer ce travail de méditation, de pleine présence dans mon travail artistique. Et j'avais fait une expérience, je vais te dire un truc que je raconte jamais. J'ai envie parce que toi, tu vas loin dans ton interview. Et donc, j'avais fait une expérience paroxystique, c'est un mot un peu bizarre que Maslow a mis sur des expériences spontanées d'éveil. Quand j'avais 25 ans, je traversais une rue dans Paris et je suis tombée complètement dans l'amour et j'ai senti que tout était fait d'amour. La rue, l'air, l'espace, moi, les voitures, tout. Et j'avais aucun mot à mettre là-dessus, surtout pas Dieu, rien. Et en fait, ça m'a complètement changé la vie. Mes représentations sur le monde, sur tout, etc. Et je ne pouvais pas parler de cette expérience, parce que d'abord j'avais peur qu'on me prenne pour une folle, tout ça. Je ne pouvais pas en parler, je ne connaissais personne avec qui on parlait, donc j'ai eu cette expérience.
Parce que du coup, cette expérience, tu l'as vécue, t'avais rien changé à ta vie, c'est vraiment un...
Je ne sais même pas ce qui a créé ça. Après, je pouvais supposer, mais je ne sais pas ce qui a créé ça. Et ça a été tellement marquant, ça a changé tellement tout mon vécu, mes perceptions, mes représentations sur le monde, la vie, le corps, l'être humain, etc., que ne pouvant pas en parler, et j'ai décidé de chercher... et j'ai cherché chez les mystiques, j'ai cherché partout, et j'ai trouvé une phrase vraiment transcendante, et ce spectacle, en fait, il est basé sur cette phrase, et ce que je ne pouvais pas dire par moi-même, c'est mon clown qui l'exprime. Et du coup, au cœur de ce spectacle, il y a une expérience paroxystique, une expérience spontanée d'éveil. Voilà. Sauf que le clown, il est un peu fou, c'est aussi l'être humain, il ne sait pas quoi en faire, il ne comprend rien de ce qui s'est passé. Il se dit, il ne faudrait pas que ça m'arrive au supermarché.
Et puis c'est voilà. Le clown, donc on va peut-être l'excuser aussi plus facilement.
Voilà, donc voilà, c'est toute cette expérience que je retrace grâce à mon clown qui m'a permis une parole que je ne pouvais pas me permettre à l'époque. Et puis après, j'ai fait un master de recherche sur ces expériences-là. Et j'ai étudié Maslow et d'autres chercheurs, cette fois-ci pas dans la mystique, mais vraiment dans la psychologie humaniste existentielle. Ça m'a passionnée. Et aussi dans les techniques de méditation que moi j'utilise, la pleine présence de Dany Bois. Et du coup, j'ai pu dépasser le fait de ne pas pouvoir en parler. Je trouvais ça génial de voir que des chercheurs avaient étudié là-dessus et de voir que c'était des expériences de bonheur spontané où les gens se découvraient dans leur plein potentiel d'être humain. Voilà.
Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la pleine présence? Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Alors, c'est un état de présence à soi, éveillé sur ses perceptions. C'est très très simple, on ressent ses appuis, on détend le corps, on est assis sur une chaise, On écoute les sons, le silence, on pose l'attention sur tout ce qui nous traverse, toutes nos perceptions. Et puis voilà, puis au bout d'un certain temps, ça, on se dépose, et puis la nature des perceptions change, le calme arrive, les pensées se calment, les émotions se calment, et on atteint un endroit, soi-même en fait, plus calme, plus serein, et puis ça peut même aller sur des petits états de bonheur, des sérénités, ça dépend d'où on part, jusqu'où on vient. C'est extrêmement étudié maintenant par toute la science et les techniques voilà, de recherche. Et maintenant, c'est même étudié et utilisé dans la médecine, par les psychiatres, etc., tout ce qui est méditation.
Et est-ce que du coup, ça demande une concentration particulière ? Ou toi, aujourd'hui, qui a du coup vécu cette expérience, qui a étudié sur le sujet, est-ce que c'est quelque chose que tu vis dans ton quotidien ? Et donc là, par exemple, tu sors du studio Prune, est-ce que tu vas être en pleine présence dans la rue, avec les sons, avec les odeurs ?
Alors, peut-être pas, enfin, ça dépend ce qu'on imagine par rapport à ça, petit à petit, parce que ça fait vraiment très longtemps, ça fait 30 ans, moi. Alors, d'une certaine manière, oui, ce n'est pas un effort, par exemple. Je peux y revenir plus vite, plus facilement. Après, ça dépend, par exemple, si j'ai eu un choc ou des difficultés, si j'ai mal physiquement, peut-être ça va me mettre plus de temps. Voilà, ça dépend. Et puis, en tout cas, des petits moments où je peux me recentrer, me retourner à ma présence, peut-être plus facilement que quand on débute.
Très bien, ça donne envie de tester l'expérience en tout cas. Du coup, donc on disait que dans J'ai mis une jupe, le sujet était plutôt autour des femmes, quand dans Dr Kiss, En mission, plutôt autour de la planète. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux sujets ? Est-ce qu'il y a un lien entre tes deux solos finalement ?
Je dirais que c'est la même âme qui vient s'incarner deux fois sur Terre. Voilà, on peut dire que dans J'ai mis une jupe, quelque part, elle a raté son espèce de mission là, de rencontrer l'amour de sa vie, et puis elle passe à côté de cet état d'éveil sans rien comprendre, et puis elle revient dans une autre incarnation, parce que dans chaque solo, en fait, je nais à vue et je disparais, ou je meurs, hein, de manière un peu symbolique, aussi à vue. C'est toute une vie d'un être, du début à la fin du spectacle. Et puis dans la deuxième... Dans le deuxième, quand elle revient en Dr Kiss, eh bien, elle arrive toute puissante avec sa mission. Elle sait ce qu'elle vient faire, etc. Elle est portée, elle est. Et puis, petit à petit, tout va foirer. Ça se passe pas du tout comme elle voudrait. Ses antennes sont coupées. Elle capte pas, elle capte plus. Et petit à petit, ça va être la catastrophe. Mais bizarrement, ça va quand même marcher. Mais pas du tout comme elle espérait.
La façon prévue initialement.
Voilà, exactement. Et surtout, ça ne va pas être grâce à elle, ça va être vraiment grâce au tous ensemble, quoi.
Tu expliques, alors je pense que ça fait exactement le lien, tu expliques que, je cite, « Mon clown passe par toutes les émotions, il vit ses failles, ses ratés, sa vulnérabilité, il est aussi ambitieux, généreux, puissant et même pourrait se croire tout puissant, tu viens de le dire, avant de chuter. Bref, il est vivant, c'est un miroir de notre humanité, on en parlait tout à l'heure, pour rire, peut-être pour déranger, peut-être pour s'aimer. Que souhaites-tu que les spectateurs retiennent de tes spectacles et qu'as-tu envie de véhiculer à travers tes solos ?
Alors pour Dr Kiss en mission, ce qui se passe, c'est que les gens me disent en sortant qu'ils ont de l'espoir. Je trouve qu'à notre époque, c'est important l'espoir.
Voilà. On est d'accord.
Donc si c'est rien que ça ou tout ça, c'est déjà merveilleux. Voilà. De ranimer quelque chose en soi. Où, je fais référence à Martin Luther King dans mon spectacle. I have a dream. Voilà. Et c'est un petit peu une clé du spectacle. Et tout est parti d'un rêve. Et ce rêve, il peut se matérialiser, mais il faut d'abord l'avoir rêvé avant que ça puisse se matérialiser. Donc c'est un petit peu ça l'idée derrière ce spectacle.
Ouais. Et combien de temps tu mets pour finalement réaliser ce spectacle ? Parce que j'imagine que de l'idée à se retrouver seule sur scène, il y a quand même quelques mois qui doivent s'écouler. Combien de temps tu mets ?
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, même des années. Parce que je suis autant passionnée par le fait d'être sur scène que par la recherche pour créer le spectacle. Je passe des heures et des heures en improvisation, en me filmant. Je reprends ce qui me plaît, je le retravaille. Et puis dans une dernière étape, eh bien, je fais appel à un metteur en scène, à un regard extérieur, pour pouvoir terminer parce que toute seule, c'est trop difficile. J'y arrive pas.
Et quand tu parles d'être en improvisation, de te filmer, est-ce que tu fais ça autour d'un thème, le thème qui va être dans ton spectacle, ou ça peut être beaucoup de sujets divers et variés ?
Non, c'est directement dans le thème. D'ailleurs, je suis assez étonnée que finalement, en quelques jours, il y a tout qui sort. Tout ce que j'avais rêvé, tout ce que j'avais imaginé qui sort. Et après, c'est un énorme travail gigantesque d'aller travailler chaque scène et d'aller creuser. Et il y a beaucoup de choses que je jette, en fait. Je ne garde pas tout.
J'imagine, surtout que c'est des spectacles qui durent une heure, donc il se passe quand même déjà beaucoup de choses en une heure. Est-ce qu'il y a une part de ton histoire personnelle dans tes solos ?
Oui, comme je racontais tout à l'heure, là, pour J'ai mis une jupe, c'est vraiment mon histoire, mais que je vais donner à mon clown, qui va la transcrire, la raconter à sa façon. Mais je dirais qu'à travers mon clown, c'est un peu toute l'humanité aussi. Il y a des choses qui m'appartiennent, il y a des choses qui ne m'appartiennent pas. Il y a aussi, quand je l'avais créé, j'ai eu un petit frère handicapé qui s'appelait Ellie. Et tu as fait référence à un documentaire. J'ai fait un documentaire sur lui. Et il m'a beaucoup appris, beaucoup touché dans ma vie. Et dans mon premier clown, il y a un petit peu de Ellie dedans. Voilà. Une espèce d'intelligence du cœur, spontanée. Et puis, il était un petit peu autiste. Et puis aussi des manières répétitives de parler, des fonctionnements un petit peu décalés. Et voilà, c'est peut-être un hommage à lui aussi, qui m'a tant appris. Ça a été un maître pour moi.
C'est un bel hommage. Ton solo de clown, j'ai mis une jupe, tu en parlais tout à l'heure, et tu suis d'un travail de recherche d'un an et demi entrepris avec deux danseuses,
oui.
Martha Rodesno et Rita Marché, d'après la méthode d'Annie Bois, tu en parlais également. Comment finalement ça va venir alimenter tes solos ? Parce que tu parlais d'improvisation, mais est-ce que voilà, il y a d'autres choses à travers ces recherches avec ces deux danseuses qui ont permis de vraiment enrichir tes solos ?
Oui, c'était vraiment passionnant parce que on sortait justement de cette technique de mouvement et on voulait vraiment expérimenter dans notre chair, dans notre corps, dans nos émotions, comment se l'approprier, comment en faire quelque chose. Et donc c'était passionnant parce que Martha, qui est danseuse, elle créait la chorégraphie et après elle glissait le mouvement sensoriel dedans. Et moi, je voulais créer à partir du mouvement sensoriel lui-même et regarder quelle chorégraphie sort de ça. Et donc, on avait deux approches opposées, mais toutes les deux aussi intéressantes. Donc, on s'est vraiment nourri l'une de l'autre et c'était vraiment, vraiment un travail de recherche passionnant.
Et ça fait un beau résultat après.
Oui, autant pour son solo que pour le mien.
Exactement. Finalement, est-ce que c'est une vocation d'être clown ? Comment est-ce que tu peux lui expliquer un petit peu à ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent, comment on en arrive là ? Est-ce que c'est une vocation ? Est-ce que c'est un appel à un moment donné peut-être logique pour toi ?
Mais ça, c'est assez incroyable dans mon histoire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui œuvrent toute leur vie pour devenir clown. Moi, j'ai jamais voulu devenir clown, en fait. C'est incroyable.
Donc ça s'est imposé.
Ça s'est donné vraiment. Si j'avais travaillé avec Dominique Chevalier, j'avais fait des stages, des choses comme ça. Je trouvais ça vraiment, cette approche vraiment passionnante. Mais j'avais jamais pensé devenir clown. Et c'est quand j'ai créé mon premier solo de clown, quand j'ai trouvé cette phrase transcendante, là, mystique, je savais pas quoi faire dessus parce que finalement, juste la neutralité suffisait et ça servait à rien de jouer quoi que ce soit dessus. Et c'est comme ça que j'ai amené mon nez de clown, un petit béret rouge, une petite jupette. Et là, il y a la parole du clown qui est sortie et qui m'a dépassée et qui a dit des choses de moi que moi, justement, je n'aurais peut-être pas osé dire. Et ça a été incroyable comme expérience. Et ça a été très vite. Et après, j'ai mis du temps pour en créer un spectacle d'une heure. Et du coup, j'ai continué avec ça parce que je trouvais que justement, dans cette méthode, le clown permettait d'aller peut-être plus loin dans la relation à soi, dans la relation aux autres, dans la relation à sa vie. Et du coup, j'ai prolongé cette expérience. Et en fait, le fait de donner des stages, c'est venu aussi du spectacle parce que des gens, des artistes qui ont vu J'ai mis une jupe, ils venaient me voir et me disaient « Mais comment tu fais ça ?» Montre-moi, apprends-moi comment tu fais ça, qu'est-ce qui se passe là ? Voilà. Et du coup, c'est comme ça que j'ai donné des stages, c'était pour leur apprendre.
C'est que finalement, tu arrives à transmettre assez facilement.
J'aime ça. En fait, je suis passionnée aussi par la pédagogie. C'est vraiment l'autre côté de la pièce.
Très bien. Eh bien, écoute, je crois que le temps tourne. Merci beaucoup, Claudia, en tout cas, pour ton temps et ta présence ce soir. C'était un vrai bonheur de t'avoir avec nous. Et donc, je rappelle que Claudia Nothal présentera ses deux solos de clown au TNT de Nantes. Donc, J'ai mis une jupe le 21 décembre et Docteur Kiss en mission du 22 au 24 décembre. Belle soirée à toutes et à tous. Je rends le micro à Martin.
Merci.
Merci Maud pour cette interview très intéressante. Tout de suite, nous laissons, alors du coup Claudia du coup laisse sa place à notre clown de chez nous, de chez Prune. Il s'agit ce soir du coup de Victor, alors qui vient, vous ne le voyez pas, mais maquillé de vert et de rouge. Alors je ne sais pas si c'était pour être le Grinch de ce soir ou éventuellement du coup le totem aux couleurs des illuminations des rues de Nantes, mais en tout cas ce sera le sujet de ce soir, tout de suite dans son interview. Il vous parlera de son point de vue sur les rues de Nantes tout en couleurs.
Curiosité, les chroniques de la rédaction.
Bonsoir, en effet, c'est bientôt Noël, joie des petits et des grands, et ce soir, je ne suis pas le Grinch, quelqu'un d'autre s'en est chargé.
Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin à Nantes. Noël n'est plus Noël. À Nantes, l'idéologie tient lieu de pensée à la mère de la ville, Madame Roland, turiféraire du progressisme et combattante du patriarcat. À Nantes, le Père Noël est mort.
Et joyeuse fête, super ambiance. Ça faisait longtemps que notre héros local, Pascal Praud, n'avait pas parlé de Nantes dans son émission d'investigation et de réflexion culturelle. Personne n'y croit. C'était il y a quelques semaines. Tout d'abord, cela fait bien longtemps que Noël n'est plus directement lié à la religion chrétienne. Des millions de personnes qui le fêtent sont athées, ne croient pas en le Christ, ne se rendent pas beaucoup plus à l'église et ne reconstituent pas plus de crèches dans leur domicile. En fait, Noël est passé de ce qu'on appelle le domaine religieux exclusif au domaine public, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le monde, plus de 2 milliards de personnes célèbrent cette fête.
Mais Caroline, mais Carrie, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude! Mais enfin, ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez!
Pardon, je reviens à mon sujet, Noël à Nantes. Round one, fight. Revenons un peu dans le temps. L'an dernier, en 2022, le maître mot c'était la sobriété. Et c'était en raison de tensions sur le réseau d'électricité que les décorations de Noël à Nantes ont été très discrètes, vous l'avez constaté comme moi, voire disons-le, quasi absentes. Les magnolias du cours des 50 étages sont restés ternes, tout comme la place Canclot, la rue du Calvaire et j'en passe. Mais cette année, pas de grosse guirlande non plus, mais un autre projet, le voyage à Nantes. Le voyage à Nantes en hiver, par le designer Jean Blaise. Et ça consiste en quoi? Eh bien, vous avez pu remarquer un peu partout dans le centre-ville, et c'est là que le mât blesse, il n'y en a pas beaucoup dans les autres quartiers. On remarque donc, à travers le centre-ville, des bâtiments éclairés de couleurs vives, rue de Strasbourg, place du Commerce. Vous avez également peut-être remarqué des rennes, aussi extrêmement flashy, à proximité de la place du croisement des trams. Je n'ai qu'une critique à formuler, mettez-en plus, beaucoup plus, osez affirmer cette créativité. Pour finir et conclure, Noël se réinvente et évolue, condition indispensable pour rester populaire. Et si Nantes n'est pas Strasbourg et Metz, pour de nombreux Nantais et un Marseillais, le Père Noël, c'est le S. Pour résumer encore un peu plus mon propos. Voici mon opinion de sachant sur ce sujet. Oui, c'est une excellente idée de réinventer les décorations de Noël. Oui, il faut l'assumer jusqu'au bout et illuminer tout Nantes et pas seulement le centre-ville. Oui, il faut garder quelques guirlandes vives, voire combiner les deux pour un rendu encore plus magique. Vous savez comme moi que je suis passionné d'intelligence artificielle et nous allons donc nous laisser en musique. Voici Freddie Mercury x Mariah Carey. Joyeuse fête.
Round 2, fight.
It's you.
Auditoris, il est bientôt 18h30 et c'est la fin de Curiosité sur Prune. J'espère que vous avez passé un très bon moment. En tout cas, c'était bien le cas pour nous. Merci de nous avoir écoutés. Je tiens vraiment à remercier et à saluer le travail de la superbe équipe avec qui j'ai le plaisir de retrouver tous les lundis. Il s'agit bien évidemment de Maud. Nous avons également du coup Victor qui nous fait rire comme à chaque fois. Nous avons également Esteban. Et nous avons également Titouan qui fait un travail monstrueux sur la réalisation et sans qui vous ne pourriez pas entendre toutes ces bandes-sons et nous écouter en direct. Nous avons été ravis d'avoir notre invitée du jour, Claudia Nautal. Merci d'être venue sur le plateau. Sachez que vous pouvez réécouter et re-écouter et faire écouter ou faire ré-ré-écouter les podcasts de ce soir et de toutes les émissions sur prune.net à chaque fin d'émission. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. C'est comme ça que vous pouvez gagner des places grâce sur les posts cadeaux grâce à Esteban. Tous les 25 du mois, n'oubliez pas que vous nous retrouvez pour tout différent pour les 25 ans de la radio. Et notamment ce 25 décembre, ce sera la Noël directement. À 19h, ce sera place au Kick Off My Boss. On se retrouve, comme l'a dit Maud, vu que c'est la dernière émission de l'année, on se retrouve que l'année prochaine. Donc passez de bonnes fêtes de fin d'année, joyeux Noël et merci à toute l'équipe encore.
Et merci à toi Martin.
Absolument.
À bientôt.
Curiosité. Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 et en podcast sur prune.net.